Charcot était bluffé. Mais d'un autre côté, il éprouvait une grande pitié pour cet homme qui avait encore toute la vie devant lui et qui passerait son existence à recopier ce qu'un ordinateur restituait en quelques secondes à peine. De quoi parle précisément le livre de Ternet? Pourquoi Daniel a-t-il été impliqué? Au départ, l'ouvrage devait traiter uniquement de statistiques. Stéphane Ternet s'est amusé, en utilisant ces fameux ATC et G, à faire un tas de calculs selon leur emplacement, leur répétition, leur quantité dans la longue chaîne de l'ADN. Diviser, par exemple, le nombre total de séquences ATA par celui de CCC. On appelle des successions de trois lettres des codons. Et obtenir des nombres remarquables entiers comme 13 ou 7, alors qu'on devrait trouver des nombres à virgule complètement aléatoires. Daniel l'y a aidé. Ternet parle même de nombres d'or, de suites mathématiques remarquables. Bref, il annonce clairement que toute la magie de la nature s'exprime à travers l'ADN de ses codes cachés. D'où le dessin de l'homme de Vitruve sur la couverture, la perfection de l'humain cachée dans l'ADN. Exactement. Mais moi, je suis très sceptique face à ces trouvailles. Quand on cherche quelque chose dans une telle quantité de lettres et de chiffres, on finit toujours par le trouver. Il grimaça. Ce livre n'aurait pu être qu'un vulgaire Da Vinci Code de l'ADN. Mais je crois qu'il n'était qu'un prétexte. Ternet s'en est servi pour distiller de nombreuses idées eugénistes, plaidoyer pour l'euthanasie, avortement systématique en cas de problème fœtal, rejet des populations vieillissantes qu'il considère comme un virus de la planète. Ternet, enfin, était pour la pureté et la jeunesse de l'humain. Pour lui, certaines races, certaines maladies génétiques cassaient les équilibres mathématiques parfaits qu'il avait réussi à trouver dans le génome humain à l'aide de Daniel. Les intrus, comme il disait, n'étaient pas dignes de figurer dans le patrimoine génétique à léguer à nos successeurs. Il a utilisé Daniel pour porter préjudice à des gens comme Daniel, justement. J'ai trouvé cette démarche monstrueuse. Charcot songea aux individus les plus faibles dans les bancs de poissons. Ternet avait voulu faire passer le même genre de message, mais d'un point de vue génétique. Pourtant, vous l'avez laissé continuer à voir Daniel, fit-il. J'ai essayé d'interrompre leur relation au début. Mais Daniel était malheureux, ses crises empiraient. Ternet lui apportait réellement quelque chose dans cette communication par les chiffres et les lettres. Je pense qu'au fond, il l'aimait vraiment beaucoup. L'ADN était la clé du cadenas qui emprisonnait Daniel. Ternet lui a amené cette clé. Alors, j'ai laissé couler. Mais, croyez-moi, je ne portais pas Ternet dans mon cœur. Maintenant qu'il n'est plus là, je suis tout de même attristé. Car j'ignore comment va évoluer Daniel. Charcot fixa le jeune autiste, qui se leva, alla poser son stylo dans un coin pour en reprendre un neuf dans la boîte. Il détailla ses rangées, ses étages de livres vides, dont la plupart ne seraient jamais remplis. Dans cette spirale illogique, il eut soudain une intuition. Est-ce que Daniel a lu la clé, le cadenas? C'est pour ainsi dire son livre de chevet. Il le parcourt presque tous les soirs, inlassablement. Charcot et Levallois échangèrent un bref regard, tandis que le directeur poursuivait. Mais lire n'est pas le terme exact, vous l'aurez compris. Il ne comprend pas évidemment les propos eugénistes ni les énoncés. Il serait très difficile de vous expliquer rapidement comment il fonctionne, mais disons qu'il parcourt tous les livres qui lui tombent sous la main en termes de succession de lettres. Pour schématiser, on va dire que des connexions s'allument dans sa tête, que des ensembles se colorent immédiatement sous ses yeux face à du texte. Il pourra, d'un coup d'œil, vous faire comprendre ou vous écrire qu'une page comporte 50 fois la lettre E sans être capable de vous dire de quoi parle le texte qui la compose. Charcot serra discrètement les poings. J'aimerais beaucoup voir cet exemplaire. Le directeur acquiesça. Il est méticuleusement rangé dans sa chambre, toujours à la même place. Je reviens. Il disparut dans le couloir. C'est effroyable, murmura Levallois. Et nous qui nous plaignons sans cesse. Ce môme n'a même pas 20 ans, et il va passer sa vie ici dans cette pièce. La maladie mentale est un lent poison. Charcot s'approcha de Daniel. Le jeune homme voûta un peu plus les épaules lorsqu'il sentit la présence derrière lui, comme l'aurait fait un chat sur la défensive. Mais il ne cessait de noter. Son pouce et son index droit étaient déformés, osseux. Il tenait son stylo comme on tient le manche d'un tournevis. Le commissaire aurait aimé rassurer ce môme, poser sa main sur son épaule, lui donner un peu de chaleur, mais il n'en fit rien. Audebert était de retour. Charcot récupéra la clé et le cadenas et le feuilleta attentivement. Des pages complètes, vides de sens, représentaient des séquences ADN d'où Ternet tirait des statistiques, traçait des graphiques, dressait des conclusions. Et il n'y avait aucune note de la part de Daniel. Mais Charcot remarqua des pages cornées, plus abîmées que d'autres. Par exemple, la page 57 du livre. En haut de celle-ci était indiqué « Considérons par exemple la séquence ADN suivante. » Dessous, plusieurs centaines de A, T, C et G se succédaient pour former une séquence. Ce qui choqua le commissaire n'était pas cette suite vide de sens, mais le fait que toutes les lettres, sans exception, avaient été soulignées par Daniel de la même façon que dans le volume numéro 1 de l'Encyclopédie de la vie. Il montra la page à Vincent Audebert. « Vous savez pourquoi il a fait ça ?» Audebert plissa les yeux. « Je n'avais jamais fait attention. Mais... il souligne tout ce qui est différent du génome de référence. Avec l'ordinateur, il sait faire des recherches dans le génome. Peut-être a-t-il recherché cette séquence sur le site du génoscope sans la trouver. De ce fait, il aurait tout souligné. » Charcot tourna encore les pages. Ça recommençait. Page 141, 158, 198... 206, 235, puis 301. Toujours la même phrase de début. Considérons par exemple la séquence ADN suivante. Et toujours les lettres soulignées. Daniel s'était acharné. Levallois se dirigea vers le livre numéro 2, l'ouvrit, feuilleta quelques pages, haussa les épaules.
Je ne comprends pas. On voit bien qu'il n'y a qu'une différence de temps en temps entre deux individus. Une différence toutes les 1000 ou 2000 lettres. Comment Daniel a-t-il pu souligner de si nombreuses différences successives ?
Stéphane Ternet a peut-être écrit des séquences complètement au hasard, juste à titre d'exemple. Ou alors... Le directeur paraissait perturbé. Il réfléchit quelques secondes, puis claqua soudain des doigts. Ou alors, j'ai peut-être une autre explication. Il récupéra le livre, ausculta attentivement les pages. À cause de Daniel et Stéphane Ternet, j'ai dû beaucoup étudier l'ADN pour comprendre. Je sais à quel point de la molécule correspondent des changements aussi rapides, regroupés et importants de séquences. Ils sont ce qu'on appelle des microsatellites.
Il hocha le menton vers l'Encyclopédie de la vie. Un jour, Daniel écrira des pages
où des centaines, des milliers de lettres successives seront soulignées comme ici, avant que tout retombe dans la normalité. Ce seront alors des microsatellites. Vos techniciens de la police scientifique les utilisent tous les jours pour leurs analyses ADN, parce qu'ils sont comme des empreintes digitales. Ils sont uniques pour chaque individu et toujours situés à la même place dans le génome.
Charcot et Levallois se regardèrent à nouveau, bluffés. Ces microsatellites serviraient donc pour les empreintes génétiques ? Demanda le commissaire. Le directeur acquiesça avec conviction.
« Exactement. Messieurs, je crois que 7 empreintes génétiques différentes sont noyées dans ce livre au milieu d'autres données anodines. 7 codes barres de 7 individus qui existent peut-être sur cette planète. »